Radio Alliance Plus, au fil des pages.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission au fil des pages. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui à notre micro Lydie Autier. Bonjour Lydie.
Bonjour Monsieur Delors.
Nous sommes heureux de vous revoir. Vous étiez venu déjà, je crois, il y a 2 ans pour présenter un livre de nouvelles, ça ?
C'est ça. C'est un recueil de nouvelles qui s'appelle « J'avais besoin d'une étoile à mes côtés ».
Oui. Et vous avez, c'était pas le premier recueil, puisque vous en publiez assez souvent avec d'autres, dans divers groupes, n'est-ce pas ?
C'est ça. J'ai eu la chance de publier dans différents recueils collectifs sur des thèmes différents.
Oui. Et j'ai noté que un de vos recueils s'appelle « Les nouvelles de la mer ». Vous aimez la mer ?
J'adore la mer. Ah, me ressource à la mer.
Et là, dans ce recueil, vous avez obtenu un prix pour une des nouvelles.
C'est ça. C'est un recueil collectif dont le thème était l'appel à texte était sur le thème de la mer. Donc, on pouvait l'explorer de la façon qui nous convenait. Et j'avais reçu le premier prix pour cette nouvelle.
Et c'est qui s'intitulait comment, elle ?
À l'infini.
À l'infini. Et vous allez loin là.
Oui.
Alors, aujourd'hui, vous êtes là pour parler votre dernier ouvrage, c'est pas un recueil de nouvelles, bien que par endroit, ça s'apparente un peu, peut-être, mais c'est un livre de plus de 200 pages, intitulé « Les vaniteuses ». On va voir tout à l'heure de quoi il en retourne, mais quand même, il faudrait rappeler un peu qui vous êtes. Vous êtes de Lavonnage et vous êtes...
Je suis enseignante.
Vous êtes enseignante à Lavonnage, dans un collège.
Dans un collège entre Nîmes et Sommières, enseignante dans un petit collège. Et puis, et j'habite dans Lavonnage aussi, donc je suis vraiment une Vonnageole.
Vous enseignez le français ?
L'espagnol.
L'espagnol, tiens.
Mais j'adore le français.
Ah oui. Et vous allez à la mer avec vos élèves, parfois ?
Rarement. J'ai eu la chance l'année dernière d'amener un groupe d'élèves espagnols justement à la mer. C'était des élèves de Saragosse et certains n'avaient pas forcément l'occasion de voir la mer. Et je crois qu'il y en avait même un ou deux qui n'avaient jamais vu la mer. On les avait amenés au Gros du Roi et ça avait été une sacrée expérience. On ne les avait pas amenés se baigner non plus, mais on avait fait découvrir tout, un petit peu la côte, hein, les Saintes-Maries de la mer, ce genre de choses. C'était une belle expérience.
Enfin, vous faites partie donc des auteurs et autrices de cette belle région qu'est Lavonnage, puisque nous avons eu le plaisir d'accueillir déjà deux ou trois autres auteurs de ce quartier. Je ne sais pas comment il faut dire, ce n'est pas un quartier, c'est une région, c'est tout près de Nîmes. Et alors, on va parler donc d'un livre intitulé « Les vaniteuses ». Et je me suis dit, pourquoi vous aviez appelé ce livre « Les vaniteuses » ? D'où vient ce titre ?
Parce que en définitive, ce livre démarre en 69, donc une période qui est quand même une période charnière pour les gens qui l'ont connu. C'est une génération qui a pu goûter entre guillemets à l'émancipation, et c'est vrai que ça commence par des jeunes qui sont pas tout à fait majeurs à l'époque puisqu'ils n'ont pas encore 21 ans et qui ont des rêves plein la tête, et beaucoup de jeunes filles qui sont partagées entre leurs rêves d'enfance, leur rêve de prince charmant, ce qu'on leur a un petit peu aussi inculqué. Donc c'est, il n'y a pas que des vaniteuses, il y a des vaniteux aussi, il y a des garçons, mais c'est vrai que je préférais centrer le titre sur les personnages féminins qui avaient des combats assez importants à mener.
Oui, les femmes ont une place très importante dans ce livre, mais pas toutes jeunes. Justement, c'est quand vous dites elles sont jeunes, enfin en tout cas dans une grande partie du livre, ce sont des personnes même âgées, adultes, et même quelquefois très âgées.
Oui.
Et le vaniteuse, est-ce que ça représente bien, qu'est-ce que vous entendez par la vaniteuse ?
Alors, il y a le, évidemment, il y a le côté orgueilleux pour certaines, certains personnages. Il y a un orgueil qui peut être lié à la réussite sociale ou à la classe, entre guillemets, la classe sociale. Et puis, il y a aussi bon, le côté, quand on est enfant, on rêve un petit peu donc, de prince charmant, d'une vie parfaite. Donc, là, ce n'est pas forcément de l'orgueil, mais... Et puis... Bon, bien sûr, on ne peut pas la voir à la radio, mais la couverture, quand on a discuté de la couverture avec mon éditrice, moi, j'étais partie sur l'idée de la vanité artistique, l'idée que la vie file et que bon, les choses les plus belles, même les plus vives, peuvent se flétrir.
La vanité des choses qui passent,
voilà,
ça, les choses qui...
C'est ça.
Oui, d'accord.
Il y a aussi, voilà, que ce soit dans l'apparence physique ou tout simplement le temps qui s'écoule.
Oui, On l'utilise cru ce mot, on dirait au masculin, c'est vain, c'est un peu... Et alors décrivez-la cette couverture, elle est belle d'ailleurs.
Alors c'est une couverture que j'ai voulu très colorée, donc c'est une couverture avec c'est même pas un bouquet parce que ce sont beaucoup beaucoup de fleurs de différentes couleurs, de différentes variétés. Il y a des roses, du rose, pardon, du jaune, du blanc, de l'orange. Et ce sont des fleurs fraîches, des fleurs des champs ou des fleurs qui seraient dans des bouquets qui éclatantes de couleurs.
J'ai envie de les voir, là. Et, le livre n'est pas toujours à l'image de ces belles couleurs.
Non, pas tout à fait, non.
Alors, il y a aussi quelque chose que vous allez nous expliquer. Comment vous écrivez un livre comme celui-là? Je veux dire, par là, sa structure. Est-ce que vous, avant d'écrire, vous faites un plan, vous dites, voilà, je vais commencer là, puis je vais aller ici, ou bien, comment ça se passe quand on écrit un livre comme celui-là de 200 pages? Et on verra un peu comment ça se structure.
Alors, dans le cas des Vaniteuses, c'est un livre qui m'a pris énormément de temps à écrire, plusieurs années même, parce que c'est, je dirais que c'est un livre qui s'est tricoté de lui-même, parce que je suis partie de différents personnages, les personnages se sont un petit peu entremêlés, leurs destins sont un peu entrecroisés, je me suis attachée à décrire et à présenter des personnages sans que surgisse réellement un personnage principal en définitive, puisque c'est l'histoire d'un village. Et donc c'est vrai que c'est... Je ne fais pas partie des personnes qui écrivent en ayant un plan purement défini. Je peux avoir un début, j'ai la fin, je sais où je veux en venir, je sais ce que je veux dire, mais je me laisse toujours un petit peu surprendre par les personnages comme s'ils prenaient un petit peu le dessus à un moment donné.
Alors, et décrivez-nous maintenant l'organisation de ce livre.
Alors, c'est une organisation qui peut être au départ déroutante. Il y a trois parties. La première partie, on peut appeler ça un roman choral quelque part, où il y a beaucoup de personnages à un moment donné qui prennent la parole pour décrire une situation, une journée, un instant T, et qui racontent leur point de vue sur quelque chose. Donc c'est l'histoire en elle-même s'étire sur quelques jours. En définitive, c'est pas très très long. Et puis on a une ellipse temporelle, on se retrouve quelques années après. Donc là, les choses, les situations, les situations où ils se sont établis, comme c'était des jeunes, leur vie, c'est organisé. Et en fin de compte, on les retrouve dans leur vie d'adulte réellement, donc majeurs, mariés, parfois avec des enfants, avec un travail, avec leur petite routine quotidienne. Et puis les choses avancent et on se rend compte que certainement des choses se sont passées dans cette ellipse temporelle. Et la troisième partie s'attache à rendre compte un petit peu de tout ce qui s'était passé avant et à dénouer un petit peu les fils qui étaient emmêlés.
Là, il y a une histoire véritablement.
Oui.
Un déroulement. Oui. Et. Est-ce qu'on peut dire que c'est un déroulement et une fin un peu inattendue par vous essayez de surprendre quand même un peu le lecteur.
Alors j'ai essayé à partir, alors la première partie c'est vrai peut être longue parce qu'il faut prendre ses marques, il faut se repérer au milieu de tous ces personnages, il faut comprendre où ils veulent en venir, mais je me suis attachée à partir quand même de la deuxième partie, quand l'action se met réellement en route, à essayer de soit de tenir en haleine, j'espère, soit de créer un petit peu la surprise de temps en temps, de glisser quelques rebondissements, justement pour montrer, de toute façon, c'est le fil de la vie, c'est jamais très linéaire.
Et au début vous saviez déjà, vous avez bien dit que vous avez pris du temps pour l'écrire, et est-ce qu'au début, vous pensiez déjà que ça se terminerait comme ça ?
Alors, le...
ça a été d'abord... Parce que c'est au début, c'est surtout des portraits, comme vous dites. Hein,
oui. Alors, disons que là où je me suis laissée surprendre par l'histoire, c'est que certains personnages ont pris peut-être un peu plus d'importance que ce qu'ils auraient pu avoir. Notamment un personnage que je ne nommerai pas, mais qui a le rôle de corbeau. Qui a tendance à harceler, entre guillemets, par lettre, puisqu'à l'époque c'était par lettre, il n'y avait pas de téléphone, de colporter de mauvaises nouvelles ou essayer d'appuyer un petit peu là où ça fait mal. Donc ce personnage a pris une importance que je n'aurais pas forcément imaginée au départ, mais le reste de l'histoire s'en est nourri. Et j'étais très attachée à vouloir garder une importance pour le personnage le plus âgé, qui n'est pas celui par lequel je commence, mais malgré tout, son histoire transversalement, son histoire revient petit à petit, qui serait un petit peu, je la vois, le personnage de Thérèse, je la vois un peu comme la gardienne de ce village, de ce quartier.
Alors, le début, vous avez dit que c'était des portraits, et en fait, effectivement, vous êtes nourri de vos souvenirs, non ?
Alors, pas mes souvenirs, parce que j'étais pas née. Ça aurait pu, parce que là où par contre mes souvenirs peuvent intervenir et vraiment marquer le récit, c'est que je suis née dans un petit village. Et c'est vrai que cet esprit, entre guillemets, de clocher, sans que ce soit forcément négatif, cet esprit, le fait que, en fin de compte... on sait toujours un petit peu ce que font les autres, et si on ne le sait pas, des fois, c'est un petit peu... on fait comme si on le savait. Je l'ai vécu, il y a des scènes que j'ai vécues. Je me suis amusée à dépeindre, par exemple, le rendez-vous hebdomadaire de Thérèse chez la coiffeuse avec toutes ses amies. Et ça, je l'ai vécu, enfin, accompagner ma grand-mère. Voilà, je me suis nourrie d'anecdotes, en fin de compte.
Mais en même temps, vous aimez décrire des situations que vous vivez aussi, que vous connaissez aujourd'hui.
C'est à laquelle vous pensez ?
Je pense à tous ces personnages, on a l'impression que vous les avez fréquentés quand même.
Ah, parce que j'aime beaucoup en fait creuser un petit peu la psychologie des personnages, et malgré tout ça reste des archétypes. Il y a un instituteur, donc quand on est né dans un village, la figure de l'instituteur quand on est enfant, elle est importante. Donc ça marque, on a des souvenirs de l'instituteur. Il y a toujours une vieille dame qu'on a plus ou moins côtoyée. Moi ça m'arrivait aussi de passer beaucoup de temps avec une voisine à qui on me confiait pour jouer ou autre. Donc c'est vrai que c'est effectivement nourri d'expériences, d'anecdotes ou de réminiscences de ce que j'ai pu vivre, même si ce n'était pas la même époque.
Et par rapport à l'actualité, est-ce que la défense des droits de la femme, ça vous importe ? Est-ce que ça entre dans ce livre ?
Disons que ce livre, il pourrait remonter... pas à l'origine, c'est pas ce que je veux dire, mais moi j'ai toujours été étonnée de voir, alors on voit énormément de choses sur les réseaux, faut faire du tri, ou dans les émissions qui célèbrent les anniversaires de telle ou telle loi ou autre, mais j'ai toujours été étonnée de voir en fait le parcours en 40, 50 ans, l'évolution des droits de la femme. Et quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, c'est de me rendre compte que au milieu des années 60, une femme ne pouvait pas travailler librement, ne pouvait pas avoir un chéquier sans demander l'autorisation à son mari. Et c'est vrai que c'est parti de là. Et en effet, pour répondre plus directement à votre question, je trouve qu'il ne faut pas oublier que les choses ont avancé, mais que, bon, il faut pas oublier, c'est le 50 ans, c'est rien à l'échelle d'une vie.
Je trouve qu'il résonne un peu dans l'actualité.
Oui.
On voit la violence de certains hommes, ou leur violence et
leur mépris
voilà. aussi des femmes. Des situations quand même... Alors, on va faire une petite pause avec de la musique que vous avez choisie de cette époque.
Tout à fait.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, 103.2 FM à Nîmes, et vous pouvez nous écouter sur votre site internet, si vous pouvez écouter en DAB+, et vous pouvez nous téléphoner au 09 53 49 85 50, 09 53 49 85 50. Donc dans cette émission Au fil des pages, nous accueillons aujourd'hui Lydie Autier, qui est l'autrice, est-ce que vous aimez ce mot, autrice?
Alors, très honnêtement, auteur, autrice, je n'ai pas de préférence. Oui, peu importe.
D'un livre intitulé « Les Vaniteuses » et qui nous emmène dans un petit pays qui pourrait être Lavonnage, peut-être, presque, avec un petit village et puis un plus gros bourg un peu plus loin où on va faire ses courses.
C'est ça.
Et un certain nombre de personnages. Alors, on a parlé de la structure du livre. Effectivement, le début, c'est une présentation. Et là, vous avez fait œuvre de pédagogie, index des personnages. On retrouve une série je les nomme rapidement, Antoine, Philomène, Jeanne, Louise, Morissette, Anne, Chantal, Claudine, un homme, Jacques Millot, Thérèse Laloy, Edmond, beaucoup de femmes. Et voilà, vous dites en gros qui ils sont. Et c'est important parce que, du coup, comme vous l'avez dit, il y a un certain nombre de textes, on ne sait pas très bien qui sont ces personnages. Donc, on revient au début et on revoit qui ils sont et la relation qu'ils ont avec les autres, s'ils sont, puisqu'il y a là des hommes d'affaires, il y a des femmes de ménage, il y a des femmes qui n'ont pas d'activité professionnelle, et toutes ces personnes se croisent, se rencontrent. Et puis vous avez donc ensuite décrit le développement, cette première partie qui commence à élaborer les relations entre ces personnes, et puis la troisième partie qui va plus loin et qui aboutit, qui est presque pas un roman policier, mais presque.
C'est, oui, sans être au moins un roman à énigmes. Au moins, oui, on essaie de découvrir un secret, de percer un mystère.
Et vous dites que vous avez pris du temps pour l'écrire.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a pris le plus de temps? Parce que vous avez des activités professionnelles par ailleurs et qu'on n'arrive pas à décacher beaucoup de temps ou...
Oui, puis j'ai quand même deux enfants qui ne sont pas très très grands, même si j'en ai une qui est une adolescente et qui a moins besoin de moi, oui, toutes les cinq minutes, je dirais. J'en ai un qui est encore petit, qui est encore en primaire, oui, donc forcément, il faut trouver le temps matériel pour, oui, se consacrer à l'écriture. Et c'est vrai qu'écrire... un roman, c'est quelque chose qui est exigeant de ce point de vue-là.
Et vous faites partie d'une association dans les autres écrits. Vous dites que vous écrivez des nouvelles ici et là pour des groupes. Vous faites partie de plusieurs...
Il y a une association dans la Vaunage qui a été... c'est un regroupement d'auteurs qu'on a appelé Plumeuse au vent, qui est toute récente. Et après, moi, je peux pas dire que je travaille directement avec d'autres autrices, mais il y a une autre association sur Nîmes avec laquelle j'ai des relations. Je fais partie de l'association aussi, qui s'appelle Meetup Parole d'auteur, qui met en valeur des auteurs. À une périodicité qui se veut mensuelle, mais qui ne l'est pas toujours, qui propose une sorte de café littéraire autour de l'écriture et qui présente donc les œuvres de ces auteurs-là.
Oui. Et là, vous êtes en train de travailler le prochain livre ?
Alors non, au moins je me suis remis aux nouvelles. C'est
oui,
vrai que...
Quand je dis livre, c'est oui,
oui, donc
vous écrivez.
Voilà, je me suis remis un petit peu aux nouvelles parce que l'inspiration me vient de beaucoup de choses et des fois, même si je n'ai pas forcément la matière pour écrire quelque chose de plus oui, consistant, j'aime bien coucher sur le papier ce qui m'interpelle en oui, réalité. Voilà.
Et ce qui vous interpelle actuellement, c'est sur quoi surtout ?
Alors en ce moment, j'ai écrit les derniers récits que j'ai écrits étaient quand même relativement noirs, sans qu'il y ait une raison personnelle à oui, tout ça. Je me suis rendu compte que c'était quand même un peu plus noir. Donc c'est plutôt le souvenir, les souvenirs de l'enfance hein, où la dernière que je n'ai pas forcément encore, j'ai pas encore mis le point final réellement, mais elle est presque aboutie. Je suis partie un peu dans le monde de l'imaginaire suite à une visite pendant les vacances en famille, hein, où on a eu la chance d'aller aux Canaries quelques jours. Et donc, il y a des choses qui m'ont aussi inspirée. Ça part de pas grand-chose.
Oui, d'accord.
Voilà, donc c'était sur le monde des papillons. Vous voyez, ça n'a rien de très noir.
On a fait exprès de ne pas mentionner, j'ai juste évoqué le nom de quelques personnages, mais de ne pas insister du tout. Est-ce que vous auriez envie de lire un petit passage de votre livre ?
Allons-y pour le salon de coiffure. Le salon de coiffure est situé en plein centre. C'est le plus ancien du village. Coincé entre le syndicat d'initiative et la banque, à l'angle même de la place, de devanture sobre, il n'attire pas spécialement l'attention des passants. À l'intérieur, le temps semble s'être arrêté. Aucune musique, aucune photographie d'un quelconque mannequin dont les cheveux auraient été teints d'une nuance improbable. La lumière y est très atténuée, il y fait presque sombre. Dès le seuil, la clientèle est accueillie par la clochette hors d'âge encore accrochée au sommet de la porte et une violente odeur mêlée d'ammoniac et de produits pour permanente. La décoration est datée. Du comptoir jusqu'aux trois fauteuils face au miroir, en passant par le bac à shampoing, tout est habillé de bois ancien, lambrissé. Un assortiment de sièges couverts de cuir, marron aussi, complète l'ensemble. Les rares touches de couleur sont apportées par les accessoires d'un vert sapin assez vif. La maîtresse des lieux est une dame, au sens le plus noble du terme, grande, élancée d'un certain âge. Sans doute a-t-elle été séduisante. Ce genre de belle plante qui traverse les époques, avec cette classe innée, cette élégance rare qui la caractérise et la dispense de suivre les modes. Son visage est souriant, quoique fermé, son regard chaleureux, bien que direct, son port altier. Elle porte comme une seconde peau un chignon haut qui semble figé sur le sommet de son crâne. Il rehausse subtilement le maquillage léger de ses pommettes et de sa bouche. Jupe droite et longue, chemisier cintré, blanc, immaculé. Madame Plantier peut se vanter d'avoir une clientèle fidèle qui lui permet de travailler selon un calendrier de rendez-vous très régulier. Je me permets de sauter quelques lignes. La coiffeuse est d'une discrétion qui fait sa force et sa réputation. Chacun des mots qui sort de sa bouche est calibré, sous-pesé avec une langue de bois calculée. Passée maîtresse dans l'art de l'écoute attentive, elle répond aux confidences avec la pudeur nécessaire. Elle a développé avec les années, il faut bien le reconnaître, une réelle affection pour toutes ces dames qui passent la porte de son salon, autant pour le service que pour sa compagnie. Elle prête une oreille distraite au ragot et traite chacune avec la même gentillesse. Elle est l'âme du lieu. Pourtant, malgré sa grande réserve et sa retenue légendaire, elle prend parfois un plaisir coupable à voir les fragiles aïeules s'animer d'un sursaut de vie impensable au récit du dernier commérage.
On a parlé de cinéma tout à l'heure. On aurait bien pu faire une scène un film à partir de ça. Il y a des couleurs, il y a des descriptions, il y a des précisions sur, qu'on pourrait voir dans l'image d'un film. En tout cas, voilà, c'est un livre très, très intéressant, très riche à ce point de vue. On aurait pu choisir des passages beaucoup plus violents, beaucoup plus durs. Mais là, c'est très bien que vous ayez présenté ce... C'est un échantillon qui donnera peut-être envie aux auditrices et aux éditeurs de se plonger dans ce livre, Les Vaniteuses. Alors, je vais en préciser l'auditeur, tel que je vois ici, c'est MVO Édition.
C'est ça.
Et je vous disais, il aurait fallu qu'il rajoute vos autres livres. Enfin, bravo pour ce livre. Eh bien, nous allons, je crois, terminer cette émission. Merci d'être venu.
Merci
bon
à vous.
Bon courage pour la suite.
Merci beaucoup.
On attend ça.
Merci, on va essayer.
Voilà, vous étiez donc sur Radio Alliance Plus, dans l'émission Au fil des pages, avec Lydie Autier qui nous présentait Les Vaniteuses. Merci Lydie.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.